actuelle, en ce 20 mai, c'est la fête d'un très grand prédicateur populaire, Saint Bernardin de Sienne, un franciscain. Un franciscain qui a parcouru l'Italie, qui était appelé partout, tout le monde voulait l'entendre, les foules venaient. Évidemment qu'il n'y avait pas de télévision à cette époque et les gens n'étaient pas retenus par autre chose. C'était pour eux quelque chose d'extraordinaire quand arrivait Saint Bernardin de Sienne. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je situe Saint Bernardin de Sienne. Il est né en 1380, puis il est mort en 1444. Donc, il est mort à 64 ans, 63 ans. Et petite particularité, je vous le spécifie au cas où je l'oublierai. Il était orphelin de mère à 3 ans et de père à 6 ans. Oui, à 6 ans. Et en dépit de tout ça, il s'est donné à Dieu et est devenu ce grand personnage qui est un des plus grands saints de l'histoire de l'Église. À pareille date, l'an dernier, je vous avais fait la vie du cardinal Jean Danielou. Je vous rappelle ça, ça avait beaucoup intéressé les gens, ce Jean Danielou, jésuite. Donc aujourd'hui, c'est Saint Bernardin de Sienne, qui est né à Massa, une ville de tout près de Sienne, de la région de Sienne, en Italie. Il est né le jour de la nativité de la Sainte Vierge, le 8 septembre 1380. C'est l'année même de la mort, ça, de Sainte Catherine de Sienne, justement. Et Bernardin est baptisé le jour même, comme on faisait souvent, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Et comme je vous ai dit, son père est mort quand il avait 6 ans. Et son père appartenait à la fameuse famille des Albizetski. Et sa mère, qui était morte 3 ans plus tôt, avait été remplacée par ses tantes, Diana, Pia et Bartolomea. Quand Bartolomea va mourir, et c'est un peu comme si sa mère mourait une deuxième fois, et aussi par sa cousine Tobia, qu'il aimait beaucoup. C'était des femmes très aimables, très bonnes, grande piété paraît-il. Elles ont été d'excellentes mères, finalement, pour dire qu'il avait presque 4 mères. Dès l'âge de 11 ans, il se rend à Sienne, qui n'est pas tellement loin, pour poursuivre ses études. D'abord, bien les belles lettres, puis la philosophie, c'est-à-dire la littérature, si vous préférez. Les écrivains, tout ça. Puis la philosophie. Apprendre à raisonner, c'est ça la philosophie. Apprendre à comprendre. Apprendre à réfléchir. Puis pendant plusieurs années, bien, il étudie le droit canon, c'est-à-dire les lois de l'Église, et les lois civiles, les droits de l'Église. J'explique ça pour les gens qui ne sont pas au courant, hein, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui ne sont pas catholiques, et même des musulmans qui m'écoutent. Et puis, il étudie la théologie, donc la réflexion sur ce qui nous a été révélé dans les Saintes Écritures, la Bible, et dans la tradition. Puis il étudie évidemment la Bible, et c'est alors qu'il est, dit-on, épris d'une très noble dame. C'est l'expression. Épris d'une très noble dame, d'amoureux d'une femme remarquable, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, l'objet de cet amour, il est jeune encore, c'est l'image de la Vierge Marie qui est peinte au-dessus de la porte Camoglia. Et à 17 ans, bien, cet amour pour Marie l'entraîne à s'affilier au Disciplinati Confraternitatis Beati Mariae, c'est-à-dire, je dirais, la confraternité des disciples de la Bienheureuse Marie, c'est une confrérie, n'est-ce pas, où l'on mène une vie de dévouement puis de mortification. Pendant la peste, vous savez qu'il y a eu une peste en 1400, c'est épouvantable, il propose de se charger du service de l'hôpital. Hein? Il a 20 ans, ou à peine. Il s'y dévoue 4 mois. Et là meurt sa tante Bartolomea. C'est pour lui un choc, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors il se retire dans la solitude. Et là, dans la solitude, il obtient, disons, de l'Esprit Saint, des éclaircissements sur sa vocation. Il se rend compte que la solitude, manger de l'herbe, etc., c'est pas nécessairement la bonne chose. Il décrit d'ailleurs à un moment donné dans ses écrits, Il essayait de manger de l'herbe, mais il avait beau boire un peu d'eau, ça passait pas. Il se demandait comment les saints autrefois réussissaient à vivre, à manger de l'herbe et à boire de l'eau simplement. C'est assez amusant à lire d'ailleurs, parce qu'il a beaucoup d'humour, hein, ce saint. Alors, ces éclaircissements qui lui viennent de l'Esprit-Saint, disons de Dieu, bien, il va frapper au couvent des franciscains de San Francesco, à Sienne, de Saint-François. C'est le 8 septembre 1402, c'est le jour de ses 22 ans, que, après avoir distribué ses biens aux pauvres, il reçoit l'habit des frères mineurs, l'habit des franciscains. Puis deux mois après, en novembre, il se retire au couvent de Colombayo. Ce sont des observants, des franciscains qui observent vraiment la règle. Au milieu des bois, et au cours d'une quête en ville, il fait quelque chose d'absolument incroyable. Il est jeune, hein? Il est un petit peu exalté peut-être, mais il faut se situer dans le temps. On est au début du 15e siècle, au tout début. Puis je vous ai dit, il est jeune. Mais savez-vous ce qu'il fait? Il flagelle avec sa discipline. Vous savez, une discipline, c'est un fouet avec plusieurs cordes, là, pour se donner la discipline, c'est-à-dire se frapper le dos, en récitant en principe le psaume 50, du fond de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur. Et puis, j'ai connu ça quand j'étais à Saint-Benoît-du-Lac dans les années 40, ça se pratiquait encore. Et puis, il a donc frappé avec sa discipline une femme qui lui a fait des avances. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais le remède a été radical pour cette pauvre femme. Elle a décidé de changer de vie. Elle a trouvé le bonheur. L'année suivante, encore le 8 septembre, mais 1403, cette fois-ci, il fait profession. Un an plus tard déjà, il est prêtre, à 24 ans. On faisait les choses rapidement dans ce temps-là, plus qu'aujourd'hui. Et après sa première messe, il prêche son premier sermon sur justement la nativité de la Vierge. On en a d'ailleurs des sermons de Saint Bernardin de Sienne sur la nativité de la Vierge. Par dévotion à la passion du Christ, il va jusqu'à porter un jour une lourde croix jusqu'au village voisin de Sarzana. Puis, il prêche, puis il fait pleurer les gens, les badauds, qui étaient plutôt disposés, eux autres, à se moquer de lui. Ils étaient venus pour voir ce pauvre jeune franciscain porter une croix, voulaient rire de lui. Et puis, les larmes leur ont coulé des yeux parce qu'il était tellement sincère. En 1405, il reçoit du général de l'ordre des franciscains, le frère Antoine-Ange Pireto. Je dis le frère, ce sont des frères mineurs. J'ai jamais compris pourquoi on les appelait des pères. Alors, je vais toujours dire frère autant que possible. D'ailleurs, ils le veulent de plus en plus. Ils veulent se faire appeler frère, même quand ils sont général ou je ne sais quoi. Alors donc, il reçoit du général de l'ordre, le frère Antoine-Ange Pireto, la mission de prêcher, puis l'été de la même année, on le trouve prêchant à la porte de Sienne. Et il fonde là un petit monastère, la Capriola. Et Bernardin est déjà très jeune, très estimé pour ses vertus. Mais pas encore comme orateur, pas du tout, c'est pas son genre, c'est pas un orateur, c'est un prédicateur populaire, comme je vous ai dit au début. Hein. C'est très différent. On le retrouve en 1417... Donc, déjà à l'âge de 37 ans, gardien du couvent, du fameux couvent de Fiesole, près de Florence, sur la colline en haut, là, c'est si beau, Fiesole. Et quand vous allez à Florence, allez à Fiesole, ne manquez pas ça. Et là, il y a un novice qui lui transmet un ordre, frère Bernardin, allez prêcher en Lombardie. Alors, sa prédication vraiment commence, cette prédication populaire étrange. C'est pas que ce soit absolument passionnant de lire les sermons de Saint Bernardin, c'est le feu qui l'habitait. C'est la passion, c'est l'amour. On dirait avec McLuhan aujourd'hui, le médium et le message. Ce franciscain, un saint, il était le message. Ce qu'il disait n'était pas archi important. Il arrive donc à Milan, puisqu'on lui demande d'aller en Lombardie vers la fin de l'année. Et puis là, C'est le dernier des Visconti qui règne à ce moment-là. Il est aussi vicieux que les autres membres de sa famille, ce Visconti. En 1418, donc, Bernardin prêche le carême dans la principale église, à Milan. Pendant le premier sermon, il s'interrompt car il voit sa cousine Tobia, revêtue de la robe d'immortalité, comme dit le texte ancien, s'élever au ciel. C'est ce qu'il a vu. Vous savez que ça existe, ça. Mon père était à table un jour chez un homme à Outremont, et sa sœur, qui avait une sœur jumelle chez les sœurs de l'Immaculée Conception en Chine, s'est sentie mal à table et on lui a demandé ce qui s'était passé. Elle a dit que sa sœur jumelle venait de mourir en Chine, elle en était certaine, elle l'avait ressentie et même vue. Et on a appris un mois plus tard que c'était exact. Vous savez, ça existe. C'est étrange, je n'y comprends rien. Alors donc, elle venait juste de mourir. Sa cousine, Tobia. La foule, au moment de ce sermon, se rend compte qu'il est très ému. Elle se sent alors plus attirée encore vers cet homme sensible. L'année suivante, il revient. Puis, donc, de 1419 à 1422, il va d'une ville à l'autre à pied, puis il prêche à Bergame, à Côme, à Mantoue, à Plaisance, à Brescia. Je ne vous raconterai pas tout ça. Ce sont des déplacements continuels. Mais il parle après sa messe. Il parle même avant que le soleil se lève. En 1420, ou au début des années 20, à Mantoue, il traverse un lac, dit-on, sur son manteau, car le batelier refuse de le passer. Bon, est-ce une histoire? Est-ce vrai? Peut-être. À Bergame, à Brescia, il rétablit la paix entre des parties ennemies. En 1422, il a 42 ans, là, à Venise, il obtient la fondation d'une chartreuse. Ces moines qui vivent comme des ermites, tout en étant ensemble pour certains moments de la prière durant la journée et le repas du dimanche. Puis, il obtient aussi la fondation d'un lazaret pour les pestiférés. Un lazaret, n'est-ce pas, en mémoire de Lazare. Il prêche à Vérone pendant plusieurs mois. Après avoir obtenu le retour à la vie, dit-on, d'un homme qui a été tué par accident. À Vicence, aussi où je suis allé encore l'été dernier, là, pendant quelques mois, plus de 20 000 personnes se pressent pour l'entendre. Du 16 avril au 30 juin, 20 000 personnes, à l'époque c'est énorme. Il n'y a pas de micro, pas de haut-parleur. En septembre de cette année 1423, il est à Bellune, où il arrête d'état de discorde. C'est un homme, un pacificateur. Hein? Mais c'est en Vénétie, là, autour de Venise, dans le nord de l'Italie, là, près de l'Adriatique, qu'il propage la dévotion au saint nom de Jésus. C'est une extraordinaire dévotion qu'il a. Et au début de 1424, il se rend à Ferrare, où il touche le cœur des habitants, ou plutôt des femmes qui habitent cette ville. Elles consentent à modérer le luxe de leur habillement et à avoir une tenue plus décente. Et sur la demande de l'évêque de Bologne, d'une ville alors en révolte contre le pape, il y prêche le carême. Et la grande nef de San Petronio est trop petite. Puis il fait peindre à un marchand de cartes le trigramme de Jésus à la place des cartes à jouer. Et tout le monde a dans ses mains des cartes où c'est écrit IHS. Jésus, sauveur des hommes. Et c'est lui qui a propagé ça. Vous savez qu'il rétablit la paix un peu partout, et puis à Bologne, ça va mieux. Alors, les gens de Florence font appel à lui parce qu'il y a aussi des problèmes dans la ville de Florence. Il va prêcher, là, et pendant l'été. Puis quel résultat, c'est incroyable. On construit une espèce de grand bûcher, on élève un grand bûcher, sur lequel les femmes apportent tout leur petit machin de vanité, leur bébelle, pour les brûler. Puis on fait peindre le trigramme de Jésus sur la façade de Santa Croce. Et le trigramme, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce IHS ou JHS, Jesus Hominum Salvator. Jésus, sauveur des hommes. Voici d'ailleurs un sermon de Saint Bernardin qui porte là-dessus. Le nom de Jésus est la gloire des prédicateurs. parce qu'il fait annoncer et entendre sa parole dans une gloire lumineuse. Comment crois-tu que se soit répandue dans le monde entier une clarté de foi si grande, si rapide et si fervente, sinon parce qu'on a prêché Jésus? N'est-ce pas par la clarté et la saveur de ce nom que Dieu nous a appelés à son admirable lumière? À ceux qui ont été illuminés et qui voient la lumière dans cette lumière, l'apôtre peut bien dire: autrefois, vous n'étiez que ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes devenus lumière. Vivez, vivez comme des fils de la lumière. Saint Bernardin continue en disant: par conséquent, il faut faire connaître ce nom, pour qu'il brille et ne pas le passer sous silence. Cependant, il ne doit pas être proclamé dans la prédication par un cœur impur ou une bouche souillée. Mais il doit être conservé, puis proclamé par un vase choisi. C'est pourquoi le Seigneur dit au sujet de saint Paul: « Cet homme est le vase que j'ai choisi afin qu'il porte mon nom auprès des nations païennes, auprès des rois et des fils d'Israël. Le vase que j'ai choisi, dit-il, est celui où se montre un liquide très doux et de grand prix, pour qu'on ait envie de le boire parce qu'il brille et resplendit dans des vases de choix, afin qu'il porte mon nom, dit le Seigneur. » Et je continue. Saint Bernardin dit: « Lorsqu'on allume un feu pour nettoyer les champs, il avait souvent des comparaisons comme ça. Hein? C'était un... Bien, comme le Christ avait des paraboles, des comparaisons. Alors, lorsqu'on allume un feu pour nettoyer les champs, les buissons et les épines sèches et stériles se mettent à brûler. Lorsque les ténèbres sont chassées par les rayons du soleil levant, les voleurs, les vagabonds nocturnes, les cambrioleurs vont se cacher. C'est ainsi que la prédication de saint Paul, comme un fracas de tonnerre, comme un incendie violent, comme le soleil à son aurore, faisait disparaître l'incroyance, dissipait l'erreur, mettait en lumière la vérité à la manière dont la cire se liquéfie sous un feu intense. En effet, il mettait partout le nom de Jésus, dans ses paroles, ses lettres, ses miracles et ses exemples. Il louait le nom de Jésus continuellement et le chantait dans son action de grâce. De plus, l'apôtre, saint Paul, portait ce nom auprès des rois, des nations païennes et des fils d'Israël comme une lumière dont il illuminait les nations du monde, et partout il s'écriait: « La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres. Révêtons-nous pour le combat de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on fait en plein jour. » Il montrait à tous la lampe ardente posée sur le lampadaire, annonçant en tout lieu Jésus le crucifié. Il termine, vous savez, c'est la lecture dans le bréviaire d'aujourd'hui, dans le la liturgie des heures, que les moines, les prêtres et tout le monde qui récite son bréviaire, comme on disait autrefois, va lire aujourd'hui, ou ont déjà lu. Et les dernières lignes, c'est très beau aussi. L'Église, épouse du Christ, toujours appuyée sur son témoignage, exulte-t-elle en disant avec le prophète: « Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et je redirai tes merveilles jusqu'à présent. » C'est-à-dire, toujours. Le prophète y exhorte aussi en disant: chantez le Seigneur en bénissant son nom, de jour en jour proclamez son salut, c'est-à-dire Jésus le Sauveur. Jésus le Sauveur. C'est pour ça qu'il faisait mettre IHJHS ou IHS un peu partout. Au carême de 1425, donc à 45 ans, il est à Prato, vers la fin d'avril, il arrive à Sienne, où il prêche pendant 50 jours après sa messe. Comme ça, les gens qui sont occupés peuvent s'en aller, parce que les sermons sont longs. Puis, ça a permis à bien des gens de venir l'entendre. Il avait parmi ses auditeurs le futur pape Pie II. Les magistrats décident d'inscrire le trigramme sur la façade du Palazzo Pubblico. Puis, il publie le 8 juin plusieurs décrets tendant au rétablissement des bonnes mœurs. À son départ, le 10 juin, il y a une foule immense qui accompagne Saint-Bernardin jusqu'à la rivière Arbia et près d'Arezzo où il passe ensuite, il fait élever une statue de la Vierge pour mettre fin à des pratiques superstitieuses qui ont lieu auprès d'une fontaine autrefois consacrée à Apollon. Ça durait encore, les mythes anciens. Ça dure encore aujourd'hui. Ça durera jusqu'à la fin des temps, on dirait, il y a toujours du monde pour croire à n'importe quoi. Au mois d'août, au pied d'Assise, là, il fête Sainte-Marie-des-Anges dans le couvent, Sainte-Marie-des-Anges. À Pérouse, se convertit sous l'action de sa parole, les foules entières. Tous les désordres disparaissent pour quelques années. Ça ne dure évidemment que quelques années, c'est comme ça toujours. En 1426, à 46 ans, il prêche en Ombrie. Ensuite, à Orvieto et à Viterne. Là, il s'attaque à l'usure, les gens qui demandent des intérêts exagéré. Ou des intérêts même, parce que c'est pas très très conseillé de prêcher en demandant des intérêts. Il prêche le carême à Viterbe quand il reçoit l'ordre de se rendre à Rome pour y répondre à une accusation d'hérésie, puis à son arrivée, le pape Martin V lui interdit, imaginez, de remonter en chaire et d'exposer ses tablettes sur lesquelles il est écrit J.H.S. Il y a une commission composée de dominicains et d'ermites de Saint-Augustin qui examine ses écrits et ses sermons. Il y a Saint-Jean Capistran qui arrive à Rome et qui fait élever une tablette, lui, avec le nom de Jésus, J.H.S., comme un étendard, puis reçoit du pape l'assurance qu'il pourra parler pour Bernardin. Puis là, la défense triomphe, et pendant 80 jours, Saint-Bernardin Sienne prêche à Rome. Il prononce 114 sermons. Il y lutte contre des pratiques barbares. Et les guérisons miraculeuses viennent augmenter sa renommée. Et là, la suite de sa vie est absolument merveilleuse. Et vous verrez comment Saint-Bernardin Sienne monte petit à petit vers les plus hauts sommets de la vie mystique et de la sainteté par amour pour Jésus. Alors revenons à Saint-Bernardin Sienne. Les Siennois, les gens de sa ville, envoient alors une députation à Rome pour demander qu'il soit nommé évêque de Sienne. Alors le pape accepte, mais Saint-Bernardin refuse. Le 14 août, il arrive à Sienne. Des divisions, des désordres qui sont reparus. Il prêche 45 sermons pour aider. C'était retrouvé, c'était publié, ça. Et finalement, bien, pour faire court, Bernardin se retire à la Capriola, là, cet endroit qu'il a construit au pape, pour écrire des sermons. Et pendant 3 ans, il y travaille pour s'aider lui-même dans ses prédications futures, mais aussi pour aider les autres prédicateurs. En 1438, il a donc 58 ans. Après 2 ans de vie errante, il est, on le nomme, vicaire général. Il doit donc prendre charge de tous les couvents de la stricte observance en Italie. C'est un très haut poste. Le pape Eugène IV favorise d'ailleurs les franciscains observants, hein, s'il leur avait transféré en 1434, 4 ans plus tôt, les sanctuaires de Terre Sainte. Ils sont toujours là en Terre Sainte, les franciscains s'occupent des sanctuaires. Alors de la Capriola, là, le nouveau vicaire général, il va avoir l'œil à tout. Il est assez sévère à certains moments, il va sévir d'ailleurs contre un ancien supérieur à Aquila, dans le royaume de Naples. Je vous raconte pas toute l'histoire, mais enfin. En 1440, dans une lettre à ses moines, il interprète les points douteux de la règle. Il donne presque toujours une solution modérée. C'est un homme modéré. Sévère, mais modéré. Bientôt, avec l'autorisation du pape, il s'adjoint Jean de Capistran, dont je vous ai déjà parlé, c'est Jean de Capistran, comme coadjuteur pour les provinces de Gênes, de Milan et de Bologne. Et en 1442, bien, le pape lui permet de se démettre et pendant son vicariat, là, on appelle ça comme ça, là, l'assistant général, il avait prononcé quelques sermons isolés. En 1439, évidemment, on reste surpris parce qu'il a prêché en grec devant les pères du concile de Florence. Je vous fais grâce de bien d'autres choses. Et puis, finalement, il est réclamé par le duc de Milan et par le marquis de Ferrare pour le carême de 1443. Il ne peut y aller car il a promis de prêcher à Padoue. Il est demandé partout. Il y prononce 60 sermons à Padoue, qui ont été recueillis justement par un auditeur, un jurisconsulte, dont le même son nom. Puis ensuite, à Vicence, qui est pas tellement loin, bien, il apaise encore des tas de discordes. Et là, on arrive près de sa mort. Il est mort en 1444. Alors, à la fin de 1443, au début de 1444, Bernardin séjourne quelques mois, encore à la Capriola, pour compléter puis réviser une dernière fois de la rédaction des sermons, qu'il publie en latin. Et c'est alors sans doute qu'il rédige les discours sur les béatitudes, car il aimait beaucoup les béatitudes, le beau sermon de Jésus sur la montagne, fait partie de l'avance, de la vie chrétienne, des Christiana Vita. Il y parle de la mort là-dedans, et c'est très bouleversant, c'est trop long pour que je vous lise ça. Il y parle de la mort du frère Vincent qui, depuis plus de 22 ans, ne l'avait pas quitté. Ils étaient comme les deux doigts de la main. La perte d'un tel ami déchire le cœur de Bernardin. Ça rappelle les larmes de Jésus quand son ami Lazare est mort. Dans les béatitudes, là, il y a bien heureux ceux qui pleurent. Quand il arrive à ce moment-là, il crie sa propre douleur dans un chapitre qui est intitulé « Pieuse lamentation sur la mort du frère Vincent, mon très fidèle et très cher ami, très cher compagnon. » Mais je vous en lis quelques phrases quand même, parce que c'est très long, mais je vous en lis rien que quelques lignes. Vous allez voir comment l'amitié peut être énorme chez un grand saint. « Débile de corps, souvent j'étais malade. Alors, frère Vincent me soutenait. Alors, il me conduisait. Faible de corps, il m'encourageait. J'étais indolent, négligent dans la voie de Dieu. Et il m'encourageait. Il m'excitait. J'étais imprévoyant, oublieux, et il m'avertissait. Comment m'as-tu été enlevé, ô Vincent? Comment m'as-tu été ravi? Toi qui ne faisais qu'un avec moi. Toi qui était selon mon cœur. » Je pourrais vous en lire pendant 10 minutes, un quart d'heure. J'ai jamais vu un long discours comme ça sur l'amitié. C'est très beau. Et on voit bien que son cœur avait gardé une grande tendresse. Une tendresse profonde malgré tout. Alors, il sent que sa mort approche. Il prêche le carême de 1444. Il va mourir peu de temps après. Il prêche à Massa, où il est né. Un lépreux est guéri en chaussant les sandales de Saint Bernardin, ce qui aide encore à sa réputation, évidemment. Il prêche 50 jours de suite sans se ménager, malgré sa fatigue. À Sienne, son dernier sermon, prononcé sur la place du Dôme, ou si vous voulez, de la cathédrale, entre le porche de la cathédrale et l'hôpital de la Scala, traite de la justice et du bon gouvernement. Il sait parler ces choses-là. Il se croit alors appelé à prêcher au royaume de Naples dans le sud, où il n'est allé qu'une fois en 1438 pour des affaires de l'observance de la règle des franciscains. Et en cette occasion, il avait prononcé un sermon sur la Sainte Vierge en présence du roi. Alors là, il quitte Sienne, mon Dieu, il a 63 ans, quoi, monté sur un âne. Parce que sa grande faiblesse ne lui permet plus de marcher. Le premier soir, il s'arrête au monastère conventuel d'Asciano, dont il gagne le gardien, si vous voulez, le supérieur du couvent, à la, disons, la stricte observance. L'observance. La seconde étape, c'est le couvent de l'île du lac de Trasimène, où il passe 3 jours avec son disciple Jacques de la Marche, dont je vous ai déjà parlé, aussi Saint Jacques de la Marche, un autre franciscain éminent. Puis, il traverse Pérouse, quelle belle ville, puis Assise, archi-belle-ville, où il demeure quelques jours à Sainte-Marie-des-Anges, où il avait prêché. À Foligno, aussi c'est si beau, a vécu Saint-Angèle de Foligno, dont je vous ai parlé, et à Spolète, il prêche, malgré sa fatigue et la mort qui s'annonce, puis il accomplit des guérisons miraculeuses, puis il quitte Spolète le 11 mai, avec la dysenterie, ça l'affaiblit terriblement, hein. Arrieti, guérison soudaine d'une petite fille. À Città Ducale, il accepte de parler sur la place. Les populations se pressent sur sa route pour lui rendre hommage. Il est de plus en plus malade, et c'est sur une litière qu'il arrive à Aquila. le dimanche avant l'Ascension. Et malgré les soins qui lui sont donnés dans le monastère conventuel, il rend l'âme la veille de l'Ascension. Pendant que ses frères franciscains chantent au chœur l'antienne du Magnificat, il avait 64 ans, 42 ans de vie monastique et au moins 20 ans de prédication. La population forçait les portes du couvent pour vénérer ses restes. Les magistrats ont pris sans tarder des mesures pour s'en emparer. Le cercueil est resté 20 jours. J'ai bien dit 20 jours. À l'entrée de l'église des franciscains. Je répète 20 jours, c'est incroyable. Plusieurs malades ou infirmes sont repartis guéris. À un moment, des gens commencent à se disputer. Et alors, étrange miracle, on trouve que le cercueil est rougi d'un peu de sang. Ça semble être une espèce de protestation d'outre-tombe. Tout le monde se calme, ça amène la réconciliation. Dans toutes les villes où il a prêché, on célèbre des services solennels. Saint Jean Capistran, ben je vous en ai parlé le 23 août 1995, qui est venu du sud du royaume de Naples pour demander la canonisation de Saint Bernardin-Sienne, rencontre à Aquila Saint-Jacques de la Marche, franciscain dont je vous ai parlé le 28 novembre 1995, un franciscain qui a fait des tas de miracles, qui est venu avec la même intention que Saint Jean Capistran. Et dès juillet, bien Sienne a pu envoyer au pape Eugène IV tout un groupe pour demander officiellement la canonisation. Alors, le roi de Naples, Alphonse d'Aragon, a écrit aussi au pape pour la même raison. La cause traîne un peu en longueur. Jean de Capistran, qui est un peu spécial, offre au pape de subir l'épreuve du feu. Imaginez évidemment que le pape Nicolas V, qui en tête ses épaules, refuse, heureusement. Une autre époque, les gens étaient un peu spéciaux. Le 26 février 1450, le pape annonce aux ambassadeurs de Sienne que la canonisation aura lieu à la Pentecôte, et c'était le 24 mai. Et près de 4000 frères de l'observance, 4000 franciscains de l'observance y ont assisté. 4000. Dans beaucoup de villes, des églises, des couvents sont dédiés à Saint Bernardin. Dans la seconde moitié de ce 15e siècle, on peut dire qu'aucun saint n'a été en Italie plus populaire et plus honoré. C'était propagé évidemment par ses disciples, le culte de la Saint-Bernardin-Sienne. Ça s'est étendu finalement dehors de l'Italie. Puis je vous signale qu'il y a à Montréal une paroisse Saint-Bernardin-Sienne, dans le bout de la 8e avenue, la ville Saint-Michel. C'est tout un personnage. Il prêchait de façon, je vous ai dit, très simple. Il parle des études à un moment donné, et j'aime bien ce qu'il dit. N'aurais-tu pas grande joie si tu voyais et entendais prêcher Jésus-Christ? Grandissime! Et de même Saint Paul, Saint Augustin, Saint Grégoire, Saint Jérôme, Saint Ambroise et les autres saints docteurs. Évidemment, hein? Eh bien, va, lis leurs livres. Choisis donc celui qui te plaît le mieux et dont tu as plus grande estime, et tu parleras avec eux, puis ils parleront avec toi. Ils t'entendront, tu les entendras, et tu y trouveras une grande joie. À te parler franc, je puis mal te faire comprendre le plaisir que tu en auras si tu ne l'éprouves pas par expérience. L'Écriture sainte n'a pas une petite écorce toute gentille, comme les écrits des poètes, mais une moelle abondante, tandis que les poètes sont creux. Je l'ai prouvé au temps de ma jeunesse, alors que les poètes me divertissaient par le doux chant de leur écorce, tandis que je ne pouvais m'intéresser ni à la Bible ni aux autres saintes écritures, mais au contraire, en les lisant, je m'endormais. Mais heureusement, Dieu a permis que me tombent entre les mains les lettres de Saint Jérôme, qui m'ont fait quitter toutes les fantaisies poétiques et aller droit à la Sainte Écriture pleine de moelle et de sagesse. Et là, j'ai pris goût ensuite. Beaucoup. Et j'ai trouvé de grandes délices dans la Sainte Écriture, et beaucoup plus que dans les poètes. Mais tu vas me demander, dois-je donc sans cesse étudier et ne chercher d'autres divertissements? Oh, je ne te dis point cela. Mais que tu dois user des plaisirs du monde avec mesure. Recherche d'abord les délices de l'âme, puis tu pourras aller plus avant dans les délices du monde, si tu veux. L'Écriture sainte te revêtira intérieurement de la douceur de gloire du paradis. De même que le miel réside dans l'alvéole de cire, et que plus tu la presses, plus tu en extrais de douceur. Mais presse les sentences de l'Écriture sainte, et plus tu les liras et tu les étudieras, plus grande douceur tu en exprimeras, tu en feras sortir, et plus de suavité tu trouveras au goût des choses de Dieu. Tu le sauras si tu t'y essaies. Autrement, non. Et tu dis donc, et tu vivras joyeux, allègre, sympathique comme sermon, hein? Je vous lis un autre extrait. De ceux qui commencent à faire le bien, qui retournent en arrière. Une bonne action, même infime, faite avec amour et charité, plaît grandement à Dieu. On rejoint Sainte Thérèse enfant Jésus. Hein? Une bonne action, même infime, faite avec amour et charité, plaît grandement à Dieu, car, bien que petite, elle lui est chère. Tu dois croître peu à peu et monter de bien en mieux. Il fait comme un escalier, de bien en mieux, puis de bien en mieux tout le temps. Hein. Il dit, j'ai connu un homme de Dieu, et vous l'avez vu aussi, qui disait toujours, quand commencerai-je à faire un peu de bien? Il pratiquait sans cesse le bien, et toujours il répétait, je voudrais commencer à faire un peu de bien. Malgré toutes ses bonnes œuvres, il ne se sentait pas justifié, et je vis arriver son âme à une hauteur telle que j'en ai été émerveillé. C'est pourquoi je dis qu'entre l'un qui s'applique tout de suite au bien avec une très vive ardeur et se met en grande entreprise pour l'amour du Christ, et l'autre qui progresse peu à peu et croit de bien en mieux, j'ai plus confiance en celui qui va pas à pas qu'en celui qui fait d'abord un grand saut. Comme l'enseignait un père de l'Église, si tu avais 1000 années à vivre au service de Dieu, il te faudrait toujours aller de bien en mieux. Et de même, si tu n'y devais vivre qu'un jour, va toujours de bien en mieux. Veux-tu un exemple? Oui. As-tu jamais vu que les grandes richesses vite acquises s'en vont aussi vite? Il n'en est pas ainsi des richesses venues peu à peu. Même si elles doivent diminuer, elles ne décroissent que petit à petit. C'est pourquoi il vaut mieux t'élever de vertu en vertu progressivement. Dis-moi, si quelqu'un devait se rendre de Sienne à Rome, ne serait-il point bon qu'il y aille en une demi-journée, puis en retourne dans le même temps, bien sûr, hein? Mais si tu réfléchis, tu verras qu'il a fait comme le cheval de course qui parcourt plus en un jour qu'en quatre, mais qui se gâte et qui devient un mauvais cheval. Je te dis qu'il vaut mieux avancer pas à pas en demeurant attentif à toute chose. Allant de cette manière, tu écarteras beaucoup de périls qui pourraient t'advenir. Fais attention. J'ai trouvé un petit texte de lui sur le péché que je trouve bien sympathique. Il dit dans un sermon, l'homme qui a fait un péché, même s'il s'en est confessé, est plus fragile et il retombe plus facilement que celui qui ne l'a jamais commis. Par exemple, un morceau de bois carbonisé et éteint reprend feu plus facilement qu'un morceau de bois qui n'a jamais été enflammé. De même, celui qui n'a pas su s'abstenir de tel péché y retombera plus facilement que celui qui ne l'a pas commis. C'est simple, mais c'est pas bête. Grâce au père André Comtois, un franciscain excellent, une âme de feu, qui était missionnaire 27 ans en Corée, je crois qu'il est actuellement en Corée en visite, il m'a aidé à préparer un peu cette émission, puis il m'a fourni un texte d'Alexandre Masseron, publié il y a déjà longtemps, que j'ai trouvé bien sympathique. Je vous en lis un bref passage. C'est très spécial. À Saint-Bernardin-Tienne, pour les prédicateurs. Ô maître incomparable dans l'art de fasciner les foules, moine édenté, n'est guère de saint au paradis dont la physionomie ne soit plus familière que la vôtre. À vous, du moins, quand nous vous prions, nous ne sommes pas obligés de vous imaginer comme un corps glorieux, rayonnant d'une vague lumière et surchargé d'auréoles, comme il nous arrive trop souvent par la faiblesse de notre esprit. Mais nous vous plantons sans aucune peine devant nous, en chair et en os. Dans votre bure franciscaine, avec le rictus un peu comique de votre bouche, avec vos joues bosselées, qui vous faisaient nommer susfig, et votre nez mince, en arête, trop long, et que semble continuer la pointe de votre menton, avec vos yeux clairs et ce regard lointain, qui nous paraît toujours scruter sur un immense auditoire l'effet d'un argument que vous ne jugiez peut-être pas décisif. Vos gestes nous sont connus, et nous savons exactement de quelle manière vous montriez à vos contemporains la tablette où était peint le trigramme du nom de Jésus, J-H-S. Jésus, sauveur des hommes. Nous vous devinons fort bien. Gravissant les degrés de votre chair en plein air, votre corps était un peu courbé quand la nuit avait été mauvaise, et alors il ne vous déplaisait pas de confier à vos auditeurs le nombre précis de fois qu'il vous avait fallu vous lever. Mais l'éloquence vous redressait bientôt et vous faisait oublier les misères de ce pauvre corps que vous traitiez sans indulgence. Nous connaissons même le son de votre voix, ou du moins nous pensons le connaître. Il est possible que nous nous trompions, mais ce dont nous sommes assurés, c'est que parfois vous deviez crier quand il s'agissait, par exemple, d'imposer silence à des femmes trop bavardes ou d'exhorter sur la place publique des auditeurs bruyants à régler d'ailleurs leurs petites affaires. Et là-bas, les gens auprès de la fontaine, allez-vous bien vous taire? Ne m'avez-vous pas compris? Allez donc plus loin conclure vos marchés. Il prêchait comme ça. Et Masseron ajoute, si d'aventure il vous prenait un jour, fantaisie, de venir me faire une visite, je suis certain que je vous reconnaîtrais du premier coup, et que je ne serais point troublé, seulement une minute de surprise peut-être, et je vous dirais tout à peu près que je suis heureux de vous rencontrer ici-bas Saint-Bernardin, et de quelle grâce ne vous suis-je pas redevable pour avoir daigné venir me voir. Je vous présente les respectueux hommages de votre humble serviteur. Asseyez-vous donc, asseyez-vous, je vous en supplie. La route est longue du ciel chez moi, moins longue, il est vrai, que de chez moi au ciel, mais n'importe, j'éprouve une joie inouïe à pouvoir converser avec vous. Il n'est point de prédicateur, Saint Bernardin, qui ait connu des succès oratoires semblables aux vôtres. Nous pouvons vous en assurer. Maintenant que vous êtes au paradis sans qu'il y ait crainte d'affroisser votre humilité, l'écho nous en est parvenu à travers 5 siècles avec une étonnante précision. Et nous aimons à nous remémorer vos triomphes parce qu'ils étaient pittoresques, comme votre éloquence elle-même. Mais les succès sont absolument fantastiques. Masseron dit à un moment donné, pendant 40 ans, l'Italie tout entière au sein fut attachée à votre bure. Et vos rares échecs que fera Andrea de Billy de l'ordre de Saint-Augustin noter avec une complaisance sans doute un peu trop grande ne nous apparaissent plus aujourd'hui que comme la confirmation d'une règle bien établie. Personne ne s'en inquiète. Et les érudits seuls en font mention. Par acquis de conscience et surtout pour se donner l'apparence de gens bien informés. J'espère que c'est pas ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Alors, il termine son texte absolument sympathique en disant: ô moine édenté, ô maître incomparable, suscitez-nous de vos imitateurs. Les moyens qu'ils emploieront ne seront plus les vôtres. 5 siècles n'ont point passé en vain. Mais ils feront pour nous ce que vous avez fait pour vos contemporains. Ils attireront les foules au pied de la chaire de vérité. Les voyous et les filles perdues, vous n'avez jamais eu peur des mots, iront les écouter. Et ces prêtres seront pour les cinémas, on pourrait dire aujourd'hui la télévision, une concurrence inattendue. Ô Saint Bernardin Sienne, apôtre de la vieille Italie, nous avons besoin de votre éloquence. Daignez, nous vous en supplions, revenir parmi nous sous une forme nouvelle.